Bonsoir et bienvenue dans Onde Noire, l'émission Polar qui est toujours la plus rock de la bande FM. Et maintenant, la bande FM aussi en radio numérique terrestre, je tiens à le préciser, c'est plus de la FM donc.
Voilà, bonsoir Jacques.
Bonsoir Corinne.
Au sommaire de cette émission, eh bien, un petit peu au début, l'actualité du polar, on va dire. En général, on va parler pas mal de prix littéraires qui ont été décernés depuis quelques semaines. Et puis ensuite, des chroniques de livres que nous avons particulièrement aimés, soit en fin d'été, soit en ce début d'automne. Comme je viens de le dire, d'abord, quelques actualités. C'est la saison des prix littéraires, jusque début décembre, on va en avoir plein. Eh bien, la littérature policière a aussi les siens, et en ce début d'automne, le premier à avoir décerné ses prix, c'est le Grand Prix de la littérature policière, comme on l'appelle le GPLP. Alors c'est un prix très très ancien, je pense que c'est un des plus anciens, puisqu'il date de 1948, et pour la petite histoire, c'est Léon Mallet qui, pour le roman français, avait été primé la première fois. Donc, il y a un roman français, un roman étranger qui sont primés chaque année. En 2014, alors j'ai oublié de dire que c'était un prix qui est décerné par un jury de 10 spécialistes, des libraires, des bibliothécaires, des journalistes, peut-être des éditeurs aussi,
Des auteurs.
Des auteurs.
Et le vainqueur de l'année précédente est membre du jury, au moins pour les romans français.
Au moins pour les romans français. Donc cette année, on a trouvé que le jury avait vraiment bon goût, parce que c'est deux romans que nous avons décernés, que nous avons défendus, pardon, cette année. Le premier, le français, c'est Antoine Chénas, avec un roman pur, qui est sorti à la Série Noire chez Gallimard. Et ça nous fait d'autant plus plaisir que les romans d'Antoine Chénas sont, on va dire, pas très consensuels. Ce sont des romans assez passionnant et très intéressant, mais qui sont pas forcément faciles d'accès, donc on est très content.
On en avait parlé dans cette émission déjà, et c'est vrai que celui-là, il a quand même un tout petit peu changé de style pour se rapprocher de, enfin, du moins pour s'éloigner un petit peu de son style propre. Donc c'est peut-être pour ça aussi qu'il est plus abordable, entre guillemets.
Ceci dit, c'est quand même un des auteurs français qui renouvelle le genre polar, et on est vraiment très content de ce prix. Pour le roman étranger, il faut dire qu'on est aussi content, puisque c'est Ron Rash, l'Américain, qui est récompensé avec un roman dont on avait aussi parlé, qui s'appelle Une terre d'ombre. Et Une terre d'ombre a été publiée il y a quelque temps au Seuil. Nous avions parlé donc de ce roman noir américain qui est ample, qui mêle les destins personnels avec l'histoire universelle, l'histoire des êtres humains en général, avec une plume, cette plume de Ron Rash, que l'on sent tellement pleine d'empathie pour ces personnages qui sont la plupart du temps dépaumés, délaissés pour compte de ce qu'on a appelé l'American Dream. Donc je répète le titre, c'est vraiment un très très bon roman. Ça s'appelle Une terre d'ombre. Vous verrez qu'il y a une falaise qui pose son ombre sur l'ensemble des personnages, et c'est aux éditions Seuil. Deuxième remise des prix, alors c'est plus proche puisque c'est le premier week-end d'octobre, que à Pau, lors du festival Un aller-retour dans le noir, l'association 813, où il y a eu l'Assemblée Générale donc en ce premier week-end d'octobre, l'association 813 donc a décerné ses 5 prix, 5 trophées pour cette année. Alors, premier roman à être récompensé, c'est Un vent de cendres, chez De Noël, Sandrine Colette, donc c'est le trophée roman francophone. En gros, un conte noir dans les vignes champenoises, où je dirais que les seigneurs du château pourraient aussi s'écrire seigneur, S-A-I-G-N-E-U-R-S. Et bien on en a aussi parlé, il suffit de regarder un petit peu dans les archives d'Onde Noire et vous retrouverez la chronique.
Ondenoire.com, je vous rappelle.
Voilà, alors pour le roman étranger, Ça a été carrément un de nos coups de cœur. C'est un livre, le titre n'a pas été traduit, tant mieux. Ça s'appelle On the Brinks, aussi la collection Seuil, qui cette année est largement récompensée. Peut-être que Marie-Caroline Aubert, directrice de collection depuis pas si longtemps que ça au Seuil, y est pour quelque chose. Donc On the Brinks, c'est un roman de Sam Millar. Sam Millar, on l'avait découvert avec Redemption Factory, qui avait été carrément une espèce de coup de poing. Donc Sam Millar, c'est un Irlandais de Belfast, et dans ce livre On the Brinks, il nous raconte un petit peu de ses souvenirs. Ne croyez pas que c'est une autobiographie banale, c'est un roman très noir, son enfance dans les quartiers populaires de Belfast, son séjour, peut-être la partie la plus noire, non pas peut-être, la partie la plus noire, son séjour à Longkesh. En tant que catholique irlandais, il a été emprisonné dans cette infâme geôle et il a fait partie des « wet blankets », ces couvertures mouillées. Ils n'avaient que ça pour se vêtir parce qu'ils refusaient de mettre l'uniforme des droits communs. Voilà, et puis une dernière partie, je dirais un petit peu plus légère, où Sam Millar a participé à un des plus gros hold-up aux États-Unis.
Qui donne son nom d'ailleurs
voilà, On the Brinks, la fameuse société Brinks de transport. Voilà, donc ça, c'est un roman absolument fantastique. Le traducteur Patrick Reynal se voit décerner le prix du meilleur traducteur. Enfin, les deux derniers prix, la BD, les adhérents de 813 ont choisi l'adaptation par Miles Eman du Dahlia Noir. Donc Dahlia Noir, tout le monde connaît, c'est un roman de James Ellroy. J'ai oublié de préciser que cette adaptation était faite à la collection Casterman.
Et elle était scénarisée par Matt.
Matt, voilà. C'est vraiment un petit bijou. Les planches de l'illustrateur sont vraiment splendides et correspondent vraiment très très bien. Je pense que James Ellroy était très content de ce travail parce que ça correspond très bien à l'ambiance du roman. Enfin, le dernier prix, le prix Maurice Renaud, c'est le prix de la meilleure contribution à la littérature noire. En gros, il décerne, il révèle un essai, un document, une étude dont le thème est le polar. Et donc, un document qui va promouvoir ce genre littéraire.
Et là, pour le coup, ça s'appelle du polar.
Carrément. Donc, c'est en gros, ce sont des entretiens de François Guérif par Philippe Blanchet. Alors, François Guérif, on ne le présente plus, mais si, il faut le présenter. C'est l'éditeur... c'est de nombreuses directeurs de collection de nombreuses éditions et depuis de nombreuses années il est à la tête des Rivages Thriller et de Rivages Noirs. C'est le découvreur de James Ellroy, c'est lui qui promeut tous les grands du polar américain et beaucoup d'auteurs français, mais aussi en Espagne, en Italie, en Suède, voilà. Donc c'est ses souvenirs, c'est ses coups de cœur et c'est une étude très très intéressante, enfin plutôt un document très intéressant à feuilleter ou à lire, pas d'une traite, il faut le picorer, parce que ça vous donne envie de lire et de relire des tas et des tas de romans. Et finalement, pour ce prix, c'est bien ça qu'on demande, un livre documentaire. On va terminer par le prix Michel Lebrun, qui est décerné chaque année début octobre. Et cette année, on est aussi très content que ce prix soit décerné à Hervé Lecor. Pour moi, Après la guerre, c'est certainement un des meilleurs romans du premier semestre 2014. C'est justement, on parlait de François Guérif, et justement, Après la guerre, c'est publié chez Rivage Thriller. Alors Après la guerre, il est, on va dire qu'il est multi-récompensé.
Ouais, il avait déjà le prix du polar européen à Lyon.
Ah, à Lyon, c'est tout à fait normal. C'est là encore des destins personnels broyés par des périodes de guerre, par des périodes d'après-guerre, par des vilainies. Enfin voilà, Hervé Lecor, on connaissait sa plume majestueuse, mais là, on va dans du très très grand roman, quoi.
Voilà, je vous conseille de revisiter nos émissions pour avoir quelques infos supplémentaires sur ces romans. On a parlé quasiment de tout ce dont on vous a cité jusqu'à maintenant.
Un petit peu de musique maintenant.
Un petit peu de musique. Alors c'est un morceau qui est joué par Wynton Marsalis et Eric Clapton, qui est extrait d'un album qui s'appelait Play the Blues, qui était enregistré en 2011 à New York au Lincoln Jazz Center. C'est là où à sa troupe, le trompettiste donc Wynton Marsalis, pardon, et joue avec son orchestre des vieux blues avec Eric Clapton. Mais il joue aussi une version étrangement revisitée du méga tube claptonien qu'est Layla. Des cuivres, un chorus de trombone, Clapton au chant, of course, et à la guitare. Mais il ne joue pas de sa fidèle Strato, mais d'une superbe demi-caisse Gibson ES-335.
Écoutez, c'est très important, ES-335.
Ah, mais tout à fait. Allez, à toi Eric, c'est pas lui qui commence.
Je tiens à préciser, parce que c'est très très rare quand même, c'est moi qui l'ai choisi. C'est pas moi qui l'ai fait, mais c'est moi qui l'ai choisi, ce morceau.
Bon, mais je l'ai approuvé, donc.
Voilà, merci. Voilà, donc tu vas nous parler maintenant, Jacques, d'une île battue par les vents.
D'une île battue...
Pas que d'une île, d'ailleurs.
Peut-être pas que d'une île, non. Donc, c'est un roman de Peter May qui s'appelle L'île du serment, qui est paru aux éditions du Rouergue dans la collection Le Rouergue noir, et qui est traduit par Jean-René Dastugue, le traducteur, attitré, disons, de Peter May. Il a fait deux romans, Peter May, après son excellente trilogie de Lewis, dont on avait parlé un peu ici aussi.
Encore une île, l'île de Lewis.
Voilà. Et Peter May, donc, là, revient pour ce nouveau roman, L'île du serment, en Écosse, pour une nouvelle histoire-enquête dont il a le secret. En fait, ce que je vous dis n'est pas tout à fait vrai, car l'enquête elle-même se passe de nos jours sur l'île d'Entrée, et l'île d'Entrée se situe dans l'archipel de la Madeleine, au Canada, juste avant d'arriver sur le continent, à la sortie ou à l'entrée, selon plutôt donc à l'entrée du golfe du Saint-Laurent.
Oui, c'était peut-être dénommé comme ça pour ceux qui sont arrivés les premières fois. Quoi,
tout à fait.
Pour rentrer dans le golfe.
Ils venaient de l'autre côté, pas de l'intérieur du Canada. Et c'est la partie historique du roman qui va se dérouler donc dans l'île de Lewis au milieu du 19e siècle. Deux parties qui s'entremêlent tout au long des deux récits. Alors sur l'île d'entrée, un meurtre est commis. Le tout premier jamais recensé sur cette île, il faut dire qu'elle est toute petite. Un homme a été retrouvé sauvagement poignardé à son domicile. La police, constituée d'une équipe de Montréal, qui est arrivée sur l'île, soupçonne très vite, peut-être trop vite, Kirstie, la femme du défunt. Mais Sim Mackenzie, qui est un des flics...
Il est au Canada ?
Oui, il est au Canada.
Ah !
C'est un des flics, c'est le seul qui parle couramment les deux langues, donc c'est pour ça qu'ils l'ont amené. Parce qu'en fait, sur cette île, il parle, bien que ce soit au Canada... français, il parle essentiellement anglais.
Canada français, francophone.
Francophone, oui, bien sûr, pardon.
On l'a perdu depuis longtemps.
Exactement. Et donc ce Sim Mackenzie a des doutes, malgré toutes les preuves qui semblent désigner la jeune femme. Et la magie de Peter May, alors qu'il ne l'a jamais vue, Sim est pratiquement sûr de connaître Kirstie. Comme une image imprégnée dans sa tête, en fait plutôt une image du passé. Et il se rend compte en recherchant dans ses souvenirs que c'est justement un souvenir des histoires que lui racontait sa grand-mère, celle de son ancêtre venu de l'autre côté de l'Atlantique en fuite depuis son Écosse natale. C'est pour ça qu'il s'appelle Mackenzie d'ailleurs.
Il y a une raison.
Et là, on va changer dans le récit, on va changer de continent, on va changer de siècle, on va changer d'île pour retrouver la tourbe et les Black Houses et le vent de l'île de Harris et Lewis. En fait, il y a deux noms, mais c'est deux îles, mais en fait, il n'y en a qu'une. On va découvrir par bribes l'histoire de Simon, qui est un jeune homme, fils de fermier, et de Criostate, alors là c'est un nom gallique, qui sont absolument pas faciles à prononcer, et pas du tout garantis.
Non mais on les lit, donc c'est bon.
Voilà, qui est une belle jeune femme, qui elle est la fille du propriétaire terrien. Alors Simon a sauvé la vie de Criostate dans sa jeunesse. Un peu plus tard, à l'adolescence, ils sont tombés amoureux d'un amour impossible, car rejeté par les deux familles. Ceux qui ont lu du Peter May le savent déjà, Peter May est un incorrigible romantique. Mais il arrive fort bien à mêler à sa romance, enfin il arrive fort bien à mêler de la romance dans son polar, ou à moins que ce soit plutôt du noir dans une histoire d'amour à travers les âges. Mais il n'est pas tout à fait un romantique contemplatif, et puis il écrit des romans noirs. Et donc il nous montre, entre autres, que de tout temps, ben, les nantis ne se gênent pas pour écraser les petits. Et dans ce cas-là, que malgré la famine de la pomme de terre, les propriétaires terriens n'ont pas hésité à expulser ceux qui ne pouvaient payer leur loyer.
Bah, c'est justement à cause de ces familles-là.
Bah oui, ils avaient déjà...
Pourquoi ?
Ils avaient déjà rien, ils ne pouvaient même pas se payer à manger, alors de là à payer un loyer, vous imaginez. Et ces gens-là, ce mépris des classes supérieures, est hélas toujours et encore bien là. Il suffit d'écouter les récentes déclarations des dirigeants du MEDEF de nos jours pour s'en rendre compte.
Côté polar... C'est éternel.
Exactement. Côté polar... L'enquête sur les îles de la Madeleine est vraiment bien menée. Une équipe de scènes de crime au complet, donc avec les prélèvements d'ADN, d'empreintes, etc. Très 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 moderne, hein. C'est pas parce qu'on est sur une petite île. Avec bien sûr cette équipe, les luttes de pouvoir, les amitiés, les amours au sein de la même team. Il évoque aussi, j'en parlais tout à l'heure, les problèmes de langue. C'est un pays francophone, mais cette région, enfin ces quelques îles, sont surtout habitées par des anglophones, des descendants d'Écossais. Parce que si vous regardez sur la carte, en fait, vous pouvez tracer une ligne droite des îles de Lewis aux îles d'entrée, même elle n'est pas droite parce qu'il y a la rotondité.
Je te signale que la Terre est ronde.
Voilà,
mais bon.
sur une carte plate ou sur Google Maps, ça
un
marche.
Un planisphère peut-être.
Ça marche parfait. Et il nous raconte, tout comme dans sa trilogie de Lewis, ses descriptions de la nature plutôt violente, humide, ça c'est le moins qu'on puisse dire, venteuse, et les conditions difficiles, tant en Écosse à l'époque qu'au Canada encore maintenant. Essentiellement dû en fait
au climat.
Ces descriptions sont vraiment très prenantes, d'une grande précision, et en fait elles donnent immédiatement de prendre un billet pour les Hébrides extérieures, histoire de voir un petit peu au plus près ces îles magnifiques et sauvages. Donc je ne saurais trop vous recommander ces quelques 400 pages de Peter May qui se lisent vraiment.
Est-ce que tu as cité l'éditeur?
L'éditeur, oui, le Rouergue Noir, le traducteur Jean-René Dastugue.
Et on va répéter le titre.
Et je répète le titre, L'île du serment.
Peter May, à tout à l'heure pour la 2e partie d'émission.